RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours, c'est en direct avec vous, bien sûr. Vous avez raté la première heure des Grandes Gueules. Elle est à disposition d'ores et déjà en podcast sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Bruno Poncet, Charles Consigny, Barbara Lefebvre, voilà le trio de GG qui sera rejoint tout à l'heure par Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Il sera avec nous, Bruno Le Maire, qui se raconte de nouveau dans un livre. Il raconte les coulisses du pouvoir. C'est une espèce de journal aussi qui passe en revue des temps politiques, des temps forts. Le temps d'une décision, c'est aux éditions Gallimard. Bruno Le Maire a-t-il vraiment tourné le dos à la politique ?
Lui qu'on présente. On espère que non.
Le ministre de l'économie qui a ruiné la France. On posera la question. Moment de vérité tout à l'heure avec Bruno Le Maire. C'est la deuxième heure des GG. On va évoquer l'école maternelle de Montreuil avec des élèves que l'on a mis en tenue militaire pour un spectacle de fin d'année. La transparence salariale, c'est l'Europe qui demande la transparence salariale en entreprise. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est démago ? Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Vous venez en discuter avec nous à 10h20. D'abord, on va s'intéresser au lancement de campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. C'était hier à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon, devant 15 000, 20 000 personnes, avec le maire, Bali Bakayoko.
60 000 personnes, d'après Mathieu.
1 million même, peut-être.
Ouais, c'était 27 000.
27 000, c'est le chiffre des organisateurs. Il faut toujours diviser par deux, hein, c'est comme avec la CGT.
Il y avait du monde.
Pas sûr.
Il y avait du monde, et c'est vrai que le Parti Socialiste, à mon avis, pourrait pas réunir 10 000 personnes.
Si, mais dans une cabine téléphonique.
C'est une place, je crois, qui peut contenir 10 000 personnes, donc partons sur 10 000. Donc c'est vrai que à gauche, il y a que la France Insoumise qui peut faire ça, parce que la gauche ne va pas très bien. Jean-Luc Mélenchon, qui est revenu sur son concept de Nouvelle France, qui a fait des propositions assez classiques à gauche, le SMIC qui passerait à 1700 euros, la retraite à 60 ans, qui se déclare comme étant finalement le seul capable d'empêcher le Rassemblement National d'arriver au pouvoir. En France, ce suprémacisme est porté par le RN. Je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, la faiblesse de sa démonstration, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français pensent que le bouclier est pire que l'assaillant. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est pire que Bardella. Et que beaucoup se disent, mais non, il faut un rempart à Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que le rempart peut lui-même être face à un rempart ? Ce sera la question,
Bruno,
à mon avis, de 2027.
On va pas aller bien loin, rempart contre rempart.
Rempart contre rempart,
ça tombe bien, la France, ça tombe bien, la France va bien. Donc ça va vraiment être très utile.
Bruno Poncet. Lancement réussi pour Jean-Luc Mélenchon ou pas ?
Votre question, c'est Mélenchon est-il le meilleur candidat à gauche ? Pour l'instant, c'est le seul. S'il y a Anas Kazib qui s'est présenté, qui lui est plus à l'extrême gauche.
Ah bah voilà.
Mais en attendant, en tout cas, Mélenchon, c'est le seul qui est à gauche. Parce que c'est pas celui que tout le monde montre là dans les médias parisiens et qui n'existe pour personne en province. Glucksmann qui est à gauche.
Il a fait un meilleur score que la France Insoumise européenne quand même,
oui,
rappelons-le.
Yannick Jadot aussi, si tu veux qu'en référence on est pas mal, tu vois.
Cette fois-ci.
Oui, là, mais Yannick Jadot, la dernière fois c'était lui. Oui. Donc maintenant c'est Glucksmann.
Je veux dire, en fait, 2024 qui sera intéressant.
Les européennes, on voit à quoi ça sert. Ça sert juste à dissoudre après l'Assemblée nationale. Hein. Pour le reste, on s'en fout. Hein.
Ah bon.
Non, mais moi je sais pas, mais je pense que Mélenchon, oui, c'est le seul. Je pense que oui, c'est réussi. Je pense qu'en ce moment, il est, comment dirais-je, doux et calme. Et ça doit changer.
C'est le Mélenchon en campagne.
C'est le Mélenchon qui est prêt pour. Et à l'heure actuelle, moi, je souhaite bien du courage aux autres parce que là, il est dans une vraie dynamique. Jusqu'au jour où ça risque de coincer un peu, mais dans une vraie dynamique pour l'instant. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à gauche, ils auraient plutôt intérêt à regarder ce que lui fait au lieu d'essayer de tous être candidats. Parce que là, on va avoir une pléthore de candidats dont certains feront peut-être même pas trois voix par leurs parents et leurs grands-parents.
Écoutez, moi, je trouve qu'il est quand même très doué politiquement. D'abord, il a réussi à ne pas se laisser ringardiser malgré son âge avancé et l'âge encore plus avancé de ses idées et le fait qu'il en est à sa quatrième candidature, sauf erreur, après une très longue carrière commencée par le Sénat. Donc, sur le papier, il devrait aujourd'hui être bon pour le Rotary Club, Mélenchon. Or, en faisant monter des jeunes, Donc des panneaux, des Bompard, des Clémence Guettet.
La nouvelle vedette, c'est Bali Bagayoko, le maire de Saint-Michel.
En faisant élire des profils nouveaux, en ayant une vraie radicalité sur le fond et en ayant une force militante très organisée et qui sait jouer de codes assez contemporains. Vous savez, moi je suis fils de publicitaire, donc je regarde tout. Par exemple, rien que le pupitre, le graphisme de ces visuels que je vois sur les réseaux sociaux, les polices qu'ils utilisent, tout ça. Bon, bref, ils essayent justement, tu parlais de modernité tout à l'heure, Olivier, je pense qu'il y a une volonté de modernité quand même qui manque cruellement à d'autres endroits de l'échiquier.
C'est plus moderne que les meetings d'Olivier Faure.
Voilà. Oui, non, mais ou même qu'à droite, au centre, etc. Bon. Donc, voilà. Ensuite, sur le fond, moi, ce que je trouve intéressant aussi, à part les proposition programmatique qui me paraissait extrêmement banale, c'est son histoire de suprémacisme. Parce que au fond, il fait une campagne très racialiste en supposant, et peut-être pas à tort, qu'il y a dans une partie de la population française, comme on dirait racisée entre guillemets, ou d'origine étrangère, etc., un sentiment d'être méprisé, d'être rejeté par le reste du pays, et notamment par les forces politiques de droite et du centre, ou même les forces politiques bobos. Et donc, en fait, il joue là-dessus et il essaye de les accrocher sur le thème « Moi, je parle à tous les Français et pas seulement aux Français blancs ». En gros, c'est ça qu'il dit. Et je trouve, honnêtement, je ne partage pas la chose, évidemment, sur le fond, mais je trouve ça pas con sur le plan politique. Donc voilà, moi, je pense que son programme est catastrophique pour la France, mais je lui reconnais du talent politique.
Barbara.
Oui, Jean-Luc Mélenchon est doué, y compris pour raconter des mensonges historiques. On l'a entendu raconter absolument n'importe quoi sur les cathédrales. Enfin, mais n'importe quoi d'un point de vue historique. Même parfois, il se trompe sur des noms de pays. Enfin, bon, bref. Donc, il n'est peut-être pas si cultivé qu'on le dit, parce qu'il est peut-être doué stratégiquement, mais bon, bref. Par ailleurs, il ment aussi, il a menti par exemple sur sa propre famille pour essayer de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il a été raconté que sa famille, c'est des pauvres gens qui n'avaient rien à voir avec la France coloniale, l'Algérie coloniale. Tout a été débunké, tout a été démontré. Il a même essayé de faire croire que ses parents étaient à la fosse commune. Alors vraiment, je trouve que il est peut-être doué, mais alors il est vraiment à la limite de l'indignité personnelle. Mais enfin bon, ça, il verra avec sa propre conscience vis-à-vis de sa propre famille. Maintenant, il est doué parce que là, il est en train de préparer pendant l'été, à mon avis, des ralliements. Vous allez voir à la rentrée, quand effectivement à gauche, ils vont se rendre compte que bon, ben, c'est pas la peine d'y aller pour faire deux queues de cerises, hein, parce que excusez-moi, mais Faure et toute la clique et les Glucksmann et les Hollande et compagnie, je pense qu'ils vont finir par comprendre quand même que tout cela est vain, tristement, hein. Moi, ça m'attriste, hein, que la gauche, ça soit représenté par Mélenchon, mais c'est un fait. Donc, il va faire tout doux tout l'été, tout mignon, hein. Il va faire le Mitterrand qui rassemble, c'est-à-dire que il va être très fort et vous verrez. Et je pense qu'il va à la rentrée nous annoncer quelques personnalités qui le rejoignent auxquelles on ne s'attend pas. Et ça va lui permettre non seulement d'adoucir son image.
Annie Arnaud sur scène.
Oui, alors Annie Arnaud, si tu veux,
avec un kéfier palestinien.
Je pense même qu'elle aurait dû se le mettre sur la tête. Elle aurait eu l'air encore plus ridicule.
Je suis sûr que ça allait être.
Non, mais la pauvre dame.
Même les ralliements, tu penses à qui? Dominique de Villepin.
Très bon écrivain, Annie Arnaud. Moi, je. Ah, si. Ah, bah alors là,
sujet vers complément, oui, c'est vrai que ça fait de la littérature.
On peut préférer Michel Houellebecq.
Oui, excuse-moi.
Si on veut. Moi, je franchement.
Aussi, oui, la voiture jaune.
Je la recommande à nos auditeurs. Je pense pas que ce soit une femme politique très éclairée, mais c'est une remarquable écrivain.
Son truc, la transfuge de classe avec les Edouard Louis. C'est toi qui m'as lancé sur Annie Arnaud.
Dominique de Villepin, par exemple.
Par exemple, ça peut être Dominique de Villepin, mais même des gens à gauche, des gens qui sont aujourd'hui au Parti Socialiste. Moi, je pense qu'il y a des gens au Parti Socialiste qui sont tout à fait d'accord avec Mélenchon.
Des Sandrine Rousseau, par exemple.
Des Sandrine Rousseau. Mais même, il y a deux, trois personnalités. Même Chloé Ridel, je la verrais bien rejoindre Mélenchon. Alors, ils vont faire ça sur la pointe des pieds. Oui, et puis, Mélenchon va faire un programme commun. Mais vous verrez petit à petit, je pense qu'au fur et à mesure des mois, jusqu'à monter en puissance jusqu'en janvier-février, et Mélenchon sera devenu roudoudou, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme roudoudou. Et au dernier moment, le rempart contre le fascisme, contre le suprématisme.
Oui, c'est son pari.
Mais son pari peut très bien marcher, vous verrez. Parce que vous verrez aussi comment tournera la machine médiatique.
Un truc qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y aura
Moi, je pense de Mélenchon. En faveur de, non, pas en faveur de Mélenchon, en faveur du rassembleur de la gauche. Parce que ça va être ça, Mélenchon.
En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'Hollande, il sera en face, quoi qu'il arrive. Il y a une telle détestation entre les deux que quoi qu'il arrive,
Hollande,
il va y aller.
Hollande, il fera
Hollande, pour l'instant, il est dans les choux.
Oui, mais c'est trop tôt. Bah, pardon, tôt, je pense que vous n'arrivez
même pas à terrasser.
Non, mais je pense que vous vous emballez. On est au mois de juin. La présidentielle, c'est dans 11 mois. On votera en mai.
Moi, je t'ai parlé stratégie de Mélenchon.
C'est bien que Jean-Luc Mélenchon crée une dynamique 11 mois avant, mais c'est pas les dynamiques 11 mois avant qui ont fait les présidents, hein. Aucunement. La dynamique, faut l'avoir en janvier, de l'année prochaine. C'est à ce moment-là qu'on saura. Donc Hollande, il a raison d'attendre. Hollande, il attend que Glucksmann se plante pour prendre sa place. C'est ça le pari de Hollande.
Moi, j'ai pas parlé de dynamique.
Et d'être le candidat. J'ai et je crois pas, je crois pas cette année qu'il y aura qu'un seul candidat de gauche.
Attends,
qui aura, je pense pas au vote utile Mélenchon.
Ah oui.
Je pense que ça a changé et qu'il y a une partie de la gauche, puisque Macron n'est plus candidat, qui est orpheline, qui ne votera pas Édouard Philippe. Alors, sauf si Attal est candidat au final, mais bon, je pense pas qu'Attal ira jusqu'au bout. Peut-être, on va voir. Mais si Attal n'y va pas jusqu'au bout, il y a cette gauche là, on va dire social-démocrate, qui ne votera pas Mélenchon, qui votait Macron jusqu'à présent et qui votera pour Hollande, pour Glucksmann, pour un autre. Je ne crois pas du tout. Non, parce que Villepin, il s'est radicalisé.
Mais oui, non, Villepin, il roulera pour Mélenchon.
Attendons qui va être le Fillon 2027 aussi, parce qu'il y aura bien un Fillon 2027. Il y en a bien qui va se faire poignarder pendant la campagne.
Qui?
Ben, je sais pas, mais il y en a toujours un, de toute façon. Donc là, j'attends de voir qui le fera.
Tu veux dire symboliquement ou
symboliquement, politiquement.
En fait, oui, qu'il y a un truc qui sort, et puis d'un seul coup, boum, ça va loin.
Mais Mélenchon, il ne fait que rassembler sa base pour l'instant.
Oui,
pas
c'est
plus.
Ça. Mais il élargit un petit peu quand même.
Et oui, vous verrez.
On va voir ce qu'en dit Jordan, qui est avec nous, qui est du côté des Hauts-de-Seine, à Châtenay-Malabry. Bonjour, Jordan.
Oui, bonjour.
Alors, ce Grand Prix,
vous pensez que c'est le meilleur ou pas, là, Mélenchon, qu'il a bien lancé sa campagne ou pas?
C'est le meilleur du pire, quoi. C'est celui qui rassemble le plus des idées les plus, on va dire, extrémistes, notamment sur le côté économique. C'est bon, bah, c'est du populisme primitif, hein. On raconte n'importe quoi pour faire un électorat, un socle électoral. Et ça marche bien en France, parce qu'il n'y a aucune culture économique, donc on peut raconter n'importe quoi et ça marche bien. Et on va se retrouver avec un deuxième tour RN et LFI avec un concours de ceux qui racontent le plus n'importe quoi. Et là-dessus, bah, Mélenchon est largement le meilleur. Moi, je le reconnais. Hein. C'est une bête de scène. Il est très, très bon là-dessus. Et il a compris. Enfin, d'ailleurs, même je pourrais le parler avec l'RN, ils ont compris comment ça fonctionnait en France. Parce que comme les gens n'ont pas de culture économique, parce qu'ils ont été bercés par le socialitanisme pendant des années, bah, on peut raconter n'importe quoi. Et on appuie sur les bons leviers émotionnels, quitte à faire fi de la réalité complète. Et hop, ça marche. Hein. On va se retrouver comme ça. Et puis, voilà, c'est cousu de fil blanc, surtout. Que Mélenchon a l'habitude d'être sous-estimé par les sondages. Donc je pense qu'il y a très de fortes chances qu'il soit.
Oui, mais il a tellement été sous-estimé que si ça se trouve, maintenant il est surestimé, parce que les sondeurs ont peur de dire des conneries.
Alors il n'était pas sous-estimé, c'est qu'il y a eu la dernière fois un vote utile à gauche qui lui a profité. Et moi je pense que ce vote utile n'existe plus. Parce qu'il y aura un autre candidat de gauche.
Il y a Pigas aussi, n'oublions pas.
Et n'oublions pas
candidat de gauche.
Mathieu Pigas, c'est ce candidat qui a fait fortune sur les pays en difficulté.
Ouais,
et qui se présente comme un homme de gauche.
Il rachète la dette du Venezuela grâce à des fonds de pension américains. Le mec, il est de gauche.
Magnifique quand même. S'il fait fortune sur la faillite des pays collectivistes, les collectivistes de France, c'est quand même.
C'est de la même façon que les gens qui présentent Villepin comme un mec de gauche. Enfin, à un moment donné, entre un mec qui est capitaliste et Villepin qui est la droite gaulliste ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, les gens je pense qu'aujourd'hui il y a un problème de culture politique en France où les gens ils mélangent tout, parce que suffit que tu prennes une position pour un sujet, tout de suite on va dire que t'es de gauche. La gauche c'est pas ça. Hein. La gauche c'est tu renverses le capitalisme et puis c'est tout en fait. Hein. Donc Mélenchon il est limite de droite.
Parce que la gauche socialiste,
il y a une gauche qui fait avec le capitalisme et corrige les défauts du capitalisme.
Mais cette gauche-là peut-être on n'en veut plus.
La gauche qui a toujours gouverné en France. Hein.
Allez-y, non, Jordan.
Jusqu'à présent.
Je trouve que déjà, les dénonciations gauche-droite n'ont plus beaucoup de sens en France, parce que quand il y a eu le nuancier politique fait par le ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur votre antenne, avait dit qu'on ne prenait pas en compte le critère économique. Donc déjà, rien que là, ça fausse. On appelle gauche et droite en France, donc ça n'a plus aucun sens dans ce pays. Enfin, dire le RN est classé extrême droite avec un programme économique de gauche, donc ça n'a pas de sens en fait.
C'est pas faux.
Faut arrêter de voir la politique sur un axe unidimensionnel. Gauche-droite, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça sur plein de sujets. Donc, je trouve que l'axe gauche-droite a perdu complètement de son sens, surtout en France.
Jordan, on va écouter Christine qui est avec nous. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, Christine, dans le Cher. Bonjour Christine, du côté de Saint-Satur, je crois. Bonjour Christine.
Bonjour à tous.
Vous avez regardé le meeting de Mélenchon hier?
En parcimonie, je l'avoue. Mais moi, j'ai même assisté à Marseille. J'ai une de mes filles qui habite Marseille. J'avais assisté à la deuxième présidentielle au meeting de Mélenchon, qui est toujours impressionnant. Mais pour dire, sans parler vraiment du meeting, Moi, c'est vraiment le programme. Alors, moi, je suis une vilaine. Hein. Je suis de gauche, j'ai plus de 71 ans. Voilà, je soutiens la Palestine avec mes amis qui vivent une partie à Tel Aviv. Voilà, nous sommes les méchants. Mais, voilà, je suis pour le programme de Mélenchon parce que je veux la 6e République. Je veux justement... Vous voyez, j'ai les larmes qui me montent à la gorge. Cette petite fille, je veux que tout ça explose. Parce que le Darmanin, là, alors je vais m'égarer peut-être. Vous voyez, faire exploser ça, c'est pas possible. Là, allez, 70 000 plaintes, allez, il faut bouger là. On veut plus de tout ça. On veut plus, je veux une 6e République. J'en ai marre qu'il y ait un type en haut qui décide.
Ça veut dire
tout.
Que Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai qu'avec Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas de type en haut.
Non, mais si je comprends bien, la 6e République, c'est que Jean-Luc Mélenchon devient président et démissionne ensuite, c'est ça?
Oui.
Non, c'est pas ça. Je sais qu'on ironise beaucoup.
Non, non, pas du tout. J'essaie de comprendre parce qu'il était pour une assemblée constituante.
Non, mais vous savez, bon, comment vous dire? Moi, dans mon travail, j'ai côtoyé des politiques. J'ai côtoyé, voilà, j'étais dans le social, en région parisienne, Strauss-Kahn, tout ça. Voilà, celui qui vient de mourir, là, ici, le Monino, je travaillais
dans le centre de formation.
Enfin, bref, je les connais. À Sarcelles, ils venaient manger la merguez. Chirac venait avec Pasqua manger la merguez. Donc, je les connais, les politiques. Ce que je veux dire par là, maintenant, je suis dans le chair, tranquille. Ce que je veux dire par là, moi, je voudrais une société où on s'occupe des démunis, qu'on s'occupe beaucoup plus des précaires. J'en ai marre du fric que l'on donne aux grandes entreprises, à l'armée.
Non, mais bien sûr, on donne de l'argent aux grandes entreprises. Et puis l'armée, il ne faut pas lui donner d'argent, Christine, en ce moment. C'est une erreur.
J'essaye de...
Non, elle a raison, on peut poser la question.
Mais les Russes sont en train de nous envahir et il ne faudrait pas donner d'argent à l'armée.
Les Russes ne nous envahissent pas.
Les chefs militaires disent que c'est pour 2030 ou avant.
Mais Charles, les Russes ne nous envahissent pas.
Écoutez ce qui se dit. Tous les chefs militaires d'Europe vous disent que c'est pour 2030 ou avant. Mais 2030, dernier délai. Moi,
ce qui est intéressant, c'est de voir que Christine, elle a envie de renverser la table, comme d'autres Français avec le Rassemblement National. Et Christine, elle veut le faire avec Jean-Luc Mélenchon pour changer de système, pour passer à la 6e République, avec des élus qu'on puisse révoquer, avec un État qui soit encore plus présent.
Mais vous voyez, elle dit qu'on donne de l'argent. Elle dit qu'on donne de l'argent aux grandes entreprises. Ça n'est pas vrai. Personne ne donne de l'argent aux grandes entreprises.
Ils ont des crédits d'impôts.
Les entreprises, mais c'est pas des dons d'argent.
Non, mais c'est des crédits d'impôts.
Les grandes entreprises, heureusement qu'elles sont là. Alors, pour faire tourner le pays.
Christine et Jordan, on va voir justement, puisqu'on a posé la question, est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat à gauche? Ah ben, c'est un non à 61%. Enfin, avec un oui à 38, vous faites un très beau premier tour.
Oui, quand même. 38, c'est qualifié.
Oui, largement, oui. Dans un instant, merci Christine, merci Jordan, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur la discussion dans les semaines, ça ne fait que commencer, comme l'a dit Barbara. Il est 10h20, la transparence salariale, c'est ce que l'Europe veut imposer à la France, qu'on puisse connaître les salaires dans les entreprises. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est démago? Vous venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous avez raté les GG. Vous avez les podcasts à votre disposition. Dans les podcasts, c'est tout ce qu'on se raconte pendant la pub notamment. Et là, Charles Consigny nous a donné sa recette de la ratatouille. Donc je vous laisse découvrir ça sur les podcasts. Bruno Pensé, Barbara Lefebvre, Charles Consigny. On va s'intéresser à la transparence salariale. Alors, vous avez peut-être découvert que la France est hors délai au niveau des directives européennes. La France aurait dû appliquer la directive sur la transparence salariale.
Oui, une directive de l'Union européenne qui date de 2023. On avait jusqu'à 2026 pour l'adopter. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors déjà, attention, la transparence salariale ne signifie pas nécessairement qu'on va connaître le salaire exact de son collègue de bureau. Mais l'idée, c'est de donner les fourchettes de rémunération dans chaque entreprise. Le salarié doit avoir le droit de connaître les critères utilisés pour fixer ses rémunérations, les évolutions de carrière. Il doit également obtenir des informations sur les niveaux de salaire moyen des salariés effectuant un travail identique au sien. Et puis aussi par sexe, parce que l'idée, c'est aussi de lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour des travaux semblables. Est-ce que c'est efficace? Le patronat estime que cela favorise surtout la jalousie, que ça va mettre un terme à ce qu'on appelle les rémunérations individuelles. Il faut pouvoir aussi, quand on est chef d'entreprise, récompenser un salarié méritant et pas être obligé de chaque fois de se justifier. Et les partisans de la transparence estiment que ça favorise l'équité et ça réduit les discriminations.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, la transparence salariale comme outil pour réduire les inégalités ou les discriminations?
En tant qu'agent de la fonction publique, chez nous, les grilles de salaire, elles sont connues. D'ailleurs, on n'est pas payé au mérite.
Non, ça marche à l'ancienneté chez vous.
Oui, oui.
Même si on est nul, mais qu'on est ancien, on est mieux payé.
Ouais, bon, bref. On ne va pas s'étaler sur la grille de la fonction publique. Mais moi, je trouve que la transparence, tant qu'elle est cadrée et qu'effectivement, donner aux salariés le droit de connaître la moyenne des rémunérations des collègues qui font le même emploi que toi, je pense que ça peut être utile parce qu'excuse-moi, mais dans le privé, et d'ailleurs ça devrait être pareil dans le public, les grilles de méritocratie, c'est-à-dire qui fait que par rapport à ton salaire de base, tu vas gagner un peu plus que le voisin, ben, moi je trouve que c'est normal que ce soit transparent. Les critères qui te permettent de bénéficier d'une prime parce que tu as eu plus de résultats, en général, il me semble que dans les entreprises, les gens savent pourquoi ils ont gagné un peu plus, parce que c'est à tel pourcent d'intéressement, etc. Donc il y a déjà une certaine transparence. Je pense que rendre cette transparence légale et obligatoire, personnellement, ça ne me gêne pas. Après, encore une fois, je suis mal placée, puisque de toute façon, nous, dans la fonction publique, tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Donc voilà. Et personne n'est ni moins jaloux ni plus jaloux. Je crois qu'hélas, la jalousie fait partie du caractère de l'être humain. Donc, de toute façon, qu'il y ait la transparence ou pas, la jalousie ne s'arrêtera pas dans le milieu professionnel.
Tu crois que de collègue à collègue,
loin de là.
Déjà, de collègue à collègue, on connaît les salaires des uns et des autres ou pas?
Bah non.
Bruno.
Moi je sais pas, nous à SNCF on a une grille.
Oui, votre grille elle est connue.
Ouais. Voilà, nous elle est connue. Si ton collègue en face de toi, tu sais qu'elle qualifie.
Non, mais ça c'est les entreprises publiques.
Le seul truc chez nous qui est un petit peu opaque, c'est nos cadres supérieurs, où là tu sais pas trop.
Florence Parly était bien payée à la SNCF.
Bah Borne aussi. Je te dis.
Et Jean Castex. Mais après c'est plafonné pour les patrons.
Parly elle était au-dessus de 50 000 par mois.
Oui, mais pour les patrons des entreprises publiques, je crois que c'est pas plus de 400 000 euros par an de moyenne.
Je crois que c'était 400 450 000.
Elle était à 52 000 Parly,
ouais. Ouais, donc oui, elle c'était différent.
Ça a été plafonné.
Après, moi je sais pas si c'est une bonne mesure ou pas. Je vois pas trop l'intérêt. Moi en plus j'ai toujours baigné dans un fait où c'était transparent entre nous collègues. Alors quand il y avait l'époque des promotions, c'est toujours un peu tendu, ça tend toujours les relations. Mais moi, j'ai pas de sujet dessus. Après que l'Europe l'impose, j'ai toujours un peu méfiant quand l'Europe impose quelque chose. À chaque fois, c'est toujours une connerie ou un truc qui risque de nous péter à la gueule.
Il y a toujours de bonnes intentions.
Oui, bah surtout l'Europe.
Oui, parce que là, on te dit que c'est pour réduire les discriminations.
Quelle discrimination? Mais en fait, tu vois, je veux dire un truc. Dans une boîte privée, c'est pas compliqué. Toi, tiens, entre vous deux là, vous faites le même taf, les mêmes horaires et tout. Il y en a un qui gagne, je veux dire une connerie, 20% de plus que l'autre. Tu vas faire quoi? Tu vas voir ton patron, je veux la même chose que lui, ton patron va dire, ben, je t'emmerde, t'auras toujours ça, et si t'es pas content, t'as qu'à te barrer. C'est quoi, tu vas réduire quoi, en fait? En fait, avant donc, ton patron, il a décidé de te payer tel prix, voilà, quoi. Après, t'as qu'à te foutre en grève si tu veux, mais si t'es tous à te mettre en grève, ça va être un peu plus compliqué. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux dire, ça va réduire, mais ça réduira quoi? À partir du moment que ton patron essaie de te payer à tel truc, et que si tu fais le même boulot que le collègue et qu'il y en a un des deux qui est mieux payé, qu'est-ce que tu veux dire?
Là, ça peut aider à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes, ou à poste égal. Les femmes sont souvent moins bien payées, notamment au niveau des cadres, que les hommes. Oui, sans justification.
Ça, c'est déjà normalement dans la loi française, on doit déjà l'appliquer normalement.
Oui, mais visiblement.
Moi, je veux dire, les justifications sont toujours données pareil, parce qu'en fait, quand tu dis qu'une femme est absente de l'entreprise pendant un certain temps du fait de sa grossesse ou du congé maternité et tout, après, on te dit, mais pendant ce temps que t'étais pas là, en fait, t'as pas pu travailler, t'as pas pu prendre en compétence, comme ça. Donc, en fait, le mec qui est resté là tout le temps, lui, il sera mieux payé. C'est ça la vraie injustice. Mais ça, tout le monde le sait. Et c'est parce
est-ce
que tu sois
besoin de ça. Non, alors.
Ben non. En fait, t'as pas besoin.
Oui,
après, c'est
de quoi
toi,
je
c'est
me
un
mêle.
Choix perso.
Déjà, c'est pas de quoi je me mêle de la part de l'Europe.
Non, mais bon. Alors, Alain gagne mieux parce que, comme
je
il est à Nice.
Plus âgé.
Non, mais c'est surtout qu'à Nice, tu as un train de vie à assurer. Il faut un coupé sport. Il faut se payer les virées à Monaco. Voilà, c'est plus cher. Alors qu'Olivier est en Bourgogne. La vie est moins chère en
Bourgogne. Il a plus d'enfants, Olivier. Olivier a beaucoup d'enfants.
La vie est moins chère en Bourgogne.
J'ai mes coupés sport, mon yacht.
Voilà. Oui, c'est ça.
Vous connaissez ce modèle de Ferrari qui s'appelle la Ferrari Kia Picanto. C'est un modèle singulier. Bon. Ça me fait penser à la Modus de Pierre Bénichou.
Renault Modus.
Moi, je n'ai pas de religion sur le sujet. Je crains deux choses. C'est que, un, dans un pays aussi égalitariste que la France, où les gens ont un tel réflexe de jalousie, je ne suis pas sûr que ça mette une ambiance fabuleuse dans les entreprises. Mais en même temps, je verrais pas forcément le problème. Je suis pas contre a priori. Je comprends pas pourquoi l'Europe nous impose ça. Ouais, alors là, franchement, l'Union européenne, il y a des missions qu'on veut bien lui déléguer en matière diplomatique, en matière industrielle, en matière de recherche, tout ce que vous voulez. Qu'on nous impose un truc comme ça, je ne vois pas en quoi c'est du ressort de l'Europe, honnêtement. Donc ça, déjà, je trouve ça curieux. Et par ailleurs, il faut voir que les gens... Certains vont dire, oui, mais ça permettra, s'il y a des abus, des grosses inégalités, etc. Il faut voir que quelqu'un qui est vraiment très bien payé, c'est pas quelqu'un qui touche tous les mois un salaire important. Quelqu'un qui est très bien payé... Il a des actions, il a des primes, il a des stock options, il a des tas de manières détournées de se faire verser un salaire extravagant qui justement est versé par ses voies détournées pour ne pas trop s'afficher. Donc, moi, je suis pas hostile par principe à une mesure de ce genre, mais je comprends pas pourquoi à la limite que nos députés se saisissent du problème, ok, mais que l'Europe nous impose ça, je comprends pas.
On a Frédéric qui veut intervenir justement du côté de la Selle Saint-Cloud, il est cadre commercial. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour, bonjour les grandes gueules.
Alors, est-ce que vous dites effectivement comme Charles, de quoi je me mêle de la part de l'Europe ou c'est plutôt une bonne chose, dites-moi?
Non, alors c'est déjà de quoi je me mêle, c'est encore un rêve de fonctionnaire. L'Europe, on préférait qu'elle s'occupe, comme vous l'avez dit, des problèmes de défense, des problèmes de diplomatie et des problèmes industriels. Ça c'est du rêve de fonctionnaire tout éveillé. Et ça n'a strictement aucun sens en entreprise. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de l'alignement des salaires entre les hommes et les femmes. Ça c'est un vrai sujet. Ça fait quand même plusieurs années dont on parle de ça. Moi, je vois dans mon entreprise, les alignements, pour des raisons budgétaires, ils sont minimum. Bon, donc on n'a pas encore déjà récupéré cet alignement. Deuxièmement, je considère que ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous négociez votre salaire. Vous avez un profil, alors il y a l'aspect salarié, puis il y a l'aspect entreprise. Vous êtes en entreprise, vous cherchez un collaborateur, vous allez chercher le meilleur collaborateur pour le meilleur budget. Parfois, vous n'avez pas le choix, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui a une expérience, etc., qui a un passé. Vous n'avez pas le choix par rapport aux besoins d'entreprise, donc vous allez embaucher quelqu'un à un prix donné. Le problème, c'est que si l'ensemble de votre équipe est à 50K et que le gars dit ben moi je gagne déjà 70K, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas le prendre? Bon, donc déjà là, il y a une aberration.
Que les gens qui sont là, qui depuis longtemps dans la boîte, qui ont parié sur la fidélité, la loyauté à l'entreprise, vont peut-être l'avoir mauvaise si le type qui arrive et tout d'un coup passe devant eux.
Je suis d'accord.
Mais dans toutes les entreprises, deuxième, à ça.
Il y a un deuxième volet. Il y a un deuxième volet. Il y a le deuxième volet. Quand vous êtes, vous, ça y est, salarié dans l'entreprise, vous avez des systèmes de bonus. Je parle pas d'intéressement, de participation, d'affectation d'action qui est évoqué tout à l'heure. Et vous avez des évaluations annuelles. Alors, ça dépend, c'est très variable sur les entreprises, je suis d'accord. Mais vous avez une rémunération à la performance, à l'engagement que vous avez, aux projets dans lesquels vous engagez. Donc, ça va aboutir à quoi? Un système de fonctionnaires. C'est-à-dire que tout le monde va avancer avec un point. Vous engagez dans l'entreprise, moi, dans mon entreprise.
Ah ouais. On va payer à l'ancienneté, on ne payera plus au mérite.
Oui, donc ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt.
On voit que ça marche pas dans la fonction publique.
Je fais quoi? Moi, je l'ai dans mon équipe. J'ai une quinzaine de personnes. J'ai des gens qui sont rentrés à un instant T. Effectivement, il y a des grosses différences. Il y a quasiment les différences de salaire vont de 1 à 3. Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons à ça. Et je fais quoi?
Après Frédéric, faut toujours rappeler qu'une entreprise privée, c'est pas une entreprise philanthropique. Elle est là pour gagner de l'argent, donc elle donne aussi à son salarié ce qu'elle pense, ce que le salarié va rapporter. C'est-à-dire que c'est pas donc voilà, c'est chacun a sa propre valeur.
Mais et vous avez en tant que moi, je suis qu'un petit manager, hein, je suis pas directeur général, etc. Mais au sein de ma petite entreprise, j'ai des gens qui s'engagent énormément. Eh bien, lorsqu'on me donne mon enveloppe annuelle d'augmentation, j'affecte effectivement, je tiens compte de deux choses, des différences de salaire, mais je peux pas rattraper salaire qui va de 1 à 3, et je compense, enfin j'essaie de compenser, si vous voulez, avec derrière des augmentations au regard de l'engagement que les gens ont témoigné. Bien sûr.
Certes, Frédéric, mais vous pensez que dans oui. toutes les entreprises, le mérite est véritablement récompensé? Vous pensez pas qu'il y a des gens qui peuvent avoir un salaire un peu plus élevé que leurs collègues uniquement parce qu'ils savent bien cirer les pompes du patron? Ça existe peut-être ça.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et puis quand on parle d'entreprise, on a des PME, on a des petites entreprises, on a des grosses compagnies internationales. Mais c'est très clair. Mais dans une PME, moi, j'ai effectivement quelqu'un de ma famille qui a une PME, il y a 20 personnes. Comment voulez-vous, qui a embauché au fur et à mesure des gens avec toutes les contraintes du marché, d'embauche, etc. Aujourd'hui, il y a des différences de salaire. Bon, alors, dans l'entreprise, déjà, dans une petite entreprise, ça se sait, hein, d'une manière ou d'une autre, ça se partage. Mais comment vous allez faire multiplier un salaire par deux?
Vous avez raison, Frédéric, surtout quand la structure est beaucoup plus petite. Mais on va regarder ce qu'en pensent ceux qui nous ont suivis, transparence salariale, nécessaire ou démago. On va regarder, je vous remercie d'avoir été avec nous, Frédéric des Yvelines. Vous dites démago à 62%, 62-38. Merci Frédéric. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Montreuil, le spectacle d'une école maternelle. Les enfants sont en tenue militaire lors d'un spectacle, mais pas n'importe quelle tenue militaire, treillis, avec des bandeaux verts autour de la tête. Ça rappelle quelque chose et on en discute avec les grandes gueules. Il est 11h moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Bruno Poncet. Et vous, bien sûr, au 32-7. On va revenir sur le spectacle de fin d'année dans une école maternelle de Montreuil.
Sympa.
Ce sont des photos, des images qui ont tourné sur les réseaux sociaux. C'est un spectacle de fin d'année et on y voit les gamins, les enfants, vêtus en tenue militaire. Alors, ils ont des bandeaux sur le front. Ils tiennent des petites armes factices et ils chantent « sortez les armes et chargez ».
Oui, c'est assez surprenant de voir ces gamins. Alors déjà, quand même, c'est gênant parce que ces images ont fait le tour des réseaux. Et là, on les protège pas beaucoup, ces enfants qu'on voit, qu'on repère. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation à la fois dénonce ce qui s'est passé dans cette école, mais dénonce aussi l'exploitation de ces images en disant qu'il y a une obligation quand même de protéger des enfants mineurs et de pas faire circuler comme ça les images. Donc effectivement, on voit ces gamins arriver vêtus de tenues militaires, ils portent des bandeaux sur le front, ils tiennent des armes factices, et ils chantent « sortez les armes chargées ». Alors, quelle idée de faire ça à des enfants Quelle est la signification? Quelle est la référence? Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Barbara?
Non, mais ce qui est important, j'entends tout à fait ce qu'a dit le ministre, il a raison de s'indigner que les images circulent, mais à l'origine, ces images, elles circulent de la part d'une mère d'élève dont le compte est Bibi Bidouche, qui est une militante, pro-Gaza, pro-BDS, pro-Dieudonné. Donc c'est elle qui a mis d'ailleurs, je crois, ses propres enfants, puisque ses enfants font partie de l'école. En tout cas, elle est parent d'élève de cette école maternelle. Donc c'est elle qui a mis en ligne les images non floutées. En revanche, le jugé coupable qui a retweeté a flouté le visage des enfants. Donc déjà, faudrait quand même le dire. Hein. La mère, elle, militante, dont on connaît apparemment les opinions parce qu'il n'a qu'à regarder son compte X. D'ailleurs, elle retweete beaucoup les élus insoumis. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, je vois pas le lien. Enfin, apparemment, il doit en avoir un. Donc effectivement, c'est très malaisant. Alors, on nous a expliqué qu'ensuite, on voit pas toute la séquence, puisqu'ensuite, ils enlèvent leur treillis. Et en dessous, ils ont un petit t-shirt avec le signe de la paix. Oui. Sauf que j'ai son nom, hein, mais je vais pas le dire. Mmh. En tout cas, je vais donner son pseudo. Bibi Bidouche, en tout cas. Donc la mère, elle n'a mis que cette séquence. que la séquence qui fait penser effectivement à des mises en scène qu'on a vues dans certains territoires et dans certains pays, oui, notamment autour du Hamas et de Sinoir, qui adoraient se promener avec des enfants comme ça et avec des kalachnikovs en plastique.
Des bandeaux verts, les enfants.
C'est elle qui est assez bizarre, je pense.
Pas des, hein, tu regardes les images depuis tout à l'heure, il y a du rouge, il y a du bleu, hein, il n'y a pas des bandeaux verts.
Ouais, d'accord, mais enfin, non, mais je suis d'accord.
Il y a des bandeaux sur la tête, quoi.
Oui, il y a des bandeaux.
Les bandeaux sur la tête.
T'as déjà vu des soldats avec des bandeaux sur la tête,
quoi. C'est quand même assez. C'est bizarre.
Ah, Rambo. Ah, ben voilà, on n'avait pas pensé à Rambo, dit.
Donc en fait, c'est bêtes. Rambo.
Et voilà, c'est un hommage à Rambo.
Eh oui, la nana, elle est pro-BDS, pro-Dieudonné, mais en fait, c'était Rambo. C'est vrai que j'avais pas capté, en fait.
Bon, est-ce que c'est la meilleure chose de mettre des gamins dans un spectacle de guerre comme ça?
C'est dingue, en fait.
Bruno Poncet.
En 2026, avec tout ce qui se passe autour de l'enfance, on s'amuse à donner des armes à des gamins dans l'école. Les gamins, ils ont déjà accès à des armes, des jouets. On a tous eu des pétards, des machins. Tu vois, quand t'es gamin, l'école, c'est quand même le lieu où t'avais même pas le droit de venir avec quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on jouait jamais avec des trucs comme ça. Et là, aujourd'hui, tu fais faire des trucs comme ça aux gamins. Moi, ça me choque un peu en me disant que c'est quand même pas l'endroit, l'école, où tu dois un peu pousser les gamins déjà vers les armes, la violence. Parce que qui dit arme dit violence, on peut dire ce qu'on veut. Mais voilà, tout que j'ai vu, il y a un moment donné, il y a un pistolet avec des flèches. Je pense pas que le gamin soit retenu de tirer une flèche sur ses potes. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas l'endroit de l'école de faire des trucs comme ça. Après, de faire une interprétation politique, je trouve que ça va un peu loin. Mais moi, je trouve que c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, l'école, ce soit pas un lieu pour que ce soit plutôt un peu un lieu neutre et un peu plus de douceur que de la violence. Je pense qu'on a assez déjà de problèmes dans les écoles. Tu as des fois des gamins de cet âge-là qui tabassent leurs potes à l'école, à la récré, en leur mettant des coups de pied dans la tête. Ça serait quand même bien qu'aujourd'hui les gamins les protègent de la violence, c'est déjà encore plus.
La chanson est une chanson de rap assez connue. Hein.
Non mais
charger les armes, c'est une chanson que j'avais déjà entendue.
La question est de savoir qui a eu cette idée, parce que c'est des maîtresses, c'est le spectacle de fin d'année, donc forcément c'est dans le cadre scolaire. Le ministre a raison de dire précisément, et il a demandé au recteur d'enquêter, savoir quelle maîtresse a eu cette idée.
On a Farouk qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Farouk.
Ah bah voilà Montreuil.
Bonjour les grandes gueules.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction, Farouk? Dites-moi.
Bah écoutez, je trouve ça choquant quand même d'utiliser des enfants qui sont à maternelle. Moi j'ai été samedi au spectacle de ma fille qui est une école juste à proximité. Donc il y a eu un spectacle sur la nature qui s'est bien passé. Et puis, dans la soirée, j'ai eu des parents qui m'ont interpellé, enfin qui m'ont appelé par téléphone pour m'expliquer un peu la situation dans cette école, et qui ont été choqués. Donc j'ai tenté d'appeler le maire communiste Patrice Bessac.
De joindre nous aussi, ce matin.
Et le député. J'ai essayé aussi d'appeler, à joindre le député Alexis Cormier, mais aucune réponse de leur part. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que, dans les écoles maternelles, c'est comme le projet éducatif est suivi par la municipalité. Donc c'est elle qui gère un peu, si vous voulez, le projet éducatif et un peu les spectacles à travers les villes.
C'est bizarre d'ailleurs que le maire n'ait toujours pas réagi, Monsieur Bessac.
Ni Bessac ni Alexis Cormier. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude, quoi. Je veux dire que chaque année il y a des spectacles en fin d'année. Bon, c'est normal. Les enfants, ils ont le droit aussi d'avoir leur spectacle, mais derrière de pas avoir une réponse du maire ou du député, et du coup laisser les parents dans la
situation. Je vais vous la faire, moi, la réponse du maire. On va vous dire que c'était pour démontrer l'absurdité de la guerre, que les enfants justement sont des victimes innocentes,
oui,
et que les faire danser, ensuite leur faire enlever leur habit militaire.
Les victimes innocentes ne sont pas en treillis militaire avec des armes.
Avec ensuite
le volet démonstration.
Le t-shirt de la paix, c'était pour démontrer l'absurdité de la guerre. Moi, je vous l'ai fait la réponse maintenant, si vous voulez, Farouk.
Alors tu dénonces les enfants soldats.
Allez-y.
Voilà, c'est pas exactement.
Je sais pas si on
en maternelle.
On parle d'enfants qui sont à la maternelle. Moi, j'ai ma fille qui a 4 ans et d'ailleurs qui a été accompagnée de sa sœur hein, qui a un mois et demi. Enfin voilà. Donc c'est un spectacle avec des familles, avec des parents, avec les quartiers. Donc on s'attend à voir un spectacle qui a été travaillé avec l'appui de la municipalité en termes de moyens, avec le projet pédagogique des institutrices et des instituteurs. Mais je veux dire, on ne va pas voir un spectacle pour voir des enfants avec des armes. Je veux dire, c'est ça qu'on veut offrir en termes de projet éducatif pour les enfants dans les
quartiers. On parlait de la protection de l'enfance tout à l'heure après la mort de Liana. Effectivement, protégeons peut-être nos enfants de tout ça.
Dans tous les cas, Farouk, je vous remercie d'avoir été avec nous et que ce soit vous ou nous ce matin qui avons aussi, je le rappelle, contacté la mairie de Montreuil.
Qui est aux abonnés absents.
Voilà, il n'y a pas de ligne, il n'y a personne au bout de la ligne. Monsieur Charles Consigné.
Je n'ai pas une opinion particulièrement tranchée sur le sujet. Je vois bien que c'est une connerie. Je vois bien les motivations de certains parents d'élèves cités par Barbara. Je ne suis nullement surpris dans la mesure où la dieudonisation d'une partie de notre pays est en marche. Et donc, voilà, je pense que c'est une connerie, qu'il faut sanctionner les auteurs de cette connerie. Mais je vois pas trop, je vois pas trop quoi dire de plus, honnêtement. Je pense qu'il faut pas non plus, si vous voulez, donner à cette connerie une portée
si, dans la mesure
nationale.
Où... Non, mais pourquoi il faut le faire? Parce que si cette militante, qui d'ailleurs depuis a passé son compte X en privé, hein, parce qu'elle a quand même senti, à mon avis, elle sent le vent du boulet, mais si cette militante qui trouvait ça tellement extraordinaire l'a posté, ne l'avait pas posté, pardon, en fait, on l'aurait pas su. Parce que finalement, d'autres parents ont peut-être filmé, des parents ont peut-être été choqués, d'autres ont trouvé ça fun. Mais en tout cas, si elle, par fierté du message, puisqu'elle ne prend que le moment, elle prend que le moment guerrier, hein, oui. Le moment où ils enlèvent les t-shirts, elle le montre pas. Donc le moment pacifique, elle ne le montre pas. Ce qui est donc très révélateur de son idéologie à elle. Ben, si elle, quelque part, elle l'avait pas mis sur les réseaux sociaux, on l'aurait pas su. Donc ça veut dire que, potentiellement, peut-être que dans d'autres écoles, dans d'autres centres de loisirs, parce qu'il peut y avoir aussi les fêtes de centres de loisirs, ben, il se passe des petits spectacles sur d'autres sujets d'ailleurs, hein, pas forcément que ça, mais il peut se passer aussi des choses qui sont un petit peu étonnantes. Donc, je pense que cette personne a cru bien faire dans sa communauté militante politique, elle a cru bien faire, ben, résultat, ça s'est retourné contre elle. Donc c'est bien, non, ça nous informe.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment c'est passer la mise en place du projet pédagogique.
Bah du coup, maintenant, elle a mis tout le monde dans la panade.
Tu vois, pour
parce
dire...
Parce que là, les enseignantes, ils vont être obligés de s'expliquer.
Qui décide du spectacle de fin d'année, effectivement, sont des enfants de maternelle. De maternelle.
Là, la directrice, directrice...
Ça peut être le centre de loisirs.
C'est souvent maintenant des femmes qui sont...
Ça peut être le périscolaire qui fait ça.
Moi, je pense que c'est la fête de fin d'année.
Je ne sais pas.
C'est le spectacle de fin d'année.
Général, ça peut être le périscolaire. Ça peut être la fête du périscolaire. Puis après, il y aura la fête de fin d'année. Ça peut ne pas être la même chose. Ça, il va falloir l'éclaircir. Et effectivement, dans ce cas-là, si c'est le périscolaire, c'est la municipalité. Donc, monsieur Bessac, il a intérêt à répondre.
Mais c'est le maire communiste de Montreuil.
Sinon, si c'est la fête de l'école, c'est Geoffrey.
Je me dis que le monde évolue vite. Parce que moi, il y a 50 ans, quand je faisais fête de l'école, j'apprenais. Chantal Goya si j'avais appris les lacs du Connemara de
Henri
Pardou,
Dess.
Oui, non, peut-être pas, non, j'avais pas été si loin, mais et en fait, je me dis aujourd'hui, c'est apprendre des chansons de rappeurs, quelles qu'elles soient, je me dis bah t'as des rappeurs soft, des Big Flo et Oli,
il faut remettre des rappeurs un nounours,
mais là la chanson me paraissait pas d'être très détendue.
Remettre les Fabulettes.
Oui, voilà, c'est ça.
Moi, c'était les Fabulettes d'Anne Sylvestre.
C'était génial, les Fabulettes d'Anne Sylvestre. Moi, j'ai fait
là, je trouve que le monde va un peu trop vite à mon goût.
Bachelet.
Les Fabulettes d'Anne Sylvestre, ça fait énormément de stimulation, même en termes de qualité de la langue.
Il y avait des jeux de mots.
Il y a des rimes.
C'est
d'un autre niveau que Charger les armes. Mais encore une fois, moi, c'est un tube. Hein. C'est vraiment un tube. Je la connais depuis des mois et des mois, cette chanson. Bah, bien sûr. Je sais plus comment s'appelle le groupe, mais c'est une chanson qui est hyper violente, qui a un appel à sortir les armes et à tirer. C'est un peu une chanson un peu de narco, truc comme ça, mais bon, les narcos cool et fun d'aujourd'hui, voyez.
Bon, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, un ancien ministre de l'économie, il s'appelle Bruno Le Maire et il vient de signer un nouveau livre, Le Temps d'une décision. C'est un récit aux éditions Gallimard. 25 ans de responsabilité au plus haut niveau, c'est un livre de souvenirs. Bruno Le Maire face aux grandes gueules avec Bruno Poncé, Barbara Lefebvre et avec Charles Consigny. Reste avec
RMC, 9h midi, les grandes gueules.